J'espère que vous avez bien commencé cette retraite, mais certainement on n'entend rien, donc je pense que ça doit être un bon signe. Le silence règne dans les couloirs, donc c'est certainement très bien. Alors, quel va être le thème de la conférence de ce soir? Ça sera tout simplement l'Écriture sainte. L'Écriture sainte. Ce matin, je vous disais qu'en parlant de la Sainte Trinité, nous ne l'aurions jamais su, nous n'aurions jamais connu la Sainte Trinité si Dieu ne nous l'avait pas révélée. Effectivement, autant avec notre intelligence, nous pouvons démontrer l'existence de Dieu, autant avec notre intelligence, nous ne pouvons pas démontrer l'existence de la Sainte Trinité. Essayez, je veux bien voir, mais on n'y arrivera pas. Non, il fallait que Dieu nous le révèle. Donc, ce qui veut dire que Dieu non seulement nous a créés, mais nous a parlé. Il nous a parlé et le fait qu'il nous ait parlé, nous appelons ça la révélation divine. La révélation divine, souvent on la définit comme une manifestation extraordinaire que Dieu a faite aux hommes, de ce qu'ils doivent connaître, croire et pratiquer. En clair, Dieu se révèle, Dieu nous parle. Évidemment, tout de suite, objection, mais c'est bien gentil, Dieu nous a parlé, mais comment on le sait? Et surtout, où trouvons-nous? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Eh bien, où est contenue cette révélation? Vous le connaissez, vous le savez, je pense. Dans deux sources, ce qu'on appelle les deux sources de la révélation, l'Écriture sainte et la tradition. Donc nous allons aborder ce soir l'Écriture sainte, mais juste avant quand même de l'aborder, n'oublions pas la tradition, que la tradition est une source de la révélation. C'est important. Vous savez que cela nous distingue des protestants. Pour eux, les protestants, la révélation n'est contenue que dans l'Écriture sainte. Sola scriptura, disait Luther. Uniquement l'Écriture. Et ils mettent de côté la tradition. Alors que la tradition est bien une des sources de la révélation. Qu'est-ce que c'est que la tradition, au sens strict? C'est la parole de Dieu qui n'est pas écrite dans la Bible, mais qui nous est transmise par l'enseignement des apôtres et qui est parvenue comme de main en main jusqu'à nous. Donc, si vous voulez, c'est cette parole de Dieu qui a été révélée aux apôtres et qui s'est transmise ensuite par les pères de l'Église, par les conciles, etc., qui est parvenue jusqu'à nous. Mais c'est une véritable source de la révélation. Vous avez saint Paul qui le dit, ça. Dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. Dès lors, frères, tenez bon, gardez fermement les traditions que vous avez apprises de nous, de vive voix ou par lettre. Donc, vous voyez, saint Paul incite à garder la tradition. Tout ce que ces Thessaloniciens ont reçu, eh bien, de le garder. Pour être plus concret, vous avez des exemples de vérité que l'Église nous demande de croire, que nous devons croire. Ce sont des dogmes révélés par Dieu, mais qui ne sont pas dans la Sainte Écriture. Vous pouvez prendre la Bible, vous regardez, vous ne trouverez pas un seul mot sur ces vérités. Par exemple, une qui est flagrante, c'est la proclamation du dogme de l'Assomption. L'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Vous lisez les évangiles, lisez les actes des apôtres, vous ne trouverez rien sur l'Assomption de la Sainte Vierge. Alors pourquoi l'Église l'a-t-elle définie comme un dogme, c'est-à-dire une vérité révélée par Dieu? Tout simplement parce que cette vérité est contenue dans la tradition. Et que la tradition, depuis le temps des apôtres jusqu'à nous, par l'iconographie, par les textes, les pères de l'Église, ont toujours parlé de cette Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Ça, c'est l'exemple typique d'une vérité contenue dans la tradition, mais dont nous ne trouvons pas trace dans l'Écriture sainte. Donc évidemment, les protestants ne vont pas croire à l'Assomption. Ou alors d'autres vérités, par exemple la substitution du dimanche au sabbat. Chez nous, les catholiques, c'est le dimanche, mais avant, c'était le sabbat. Quand est-ce que la transition s'est faite? Comment Ben ça, vous ne trouverez rien dans la Sainte Écriture, mais c'est la tradition qui nous en parle. Voilà, je ferme la parenthèse pour la tradition, mais évidemment ne pas l'oublier. Donc l'Écriture sainte. L'Écriture sainte, qu'est-ce que c'est? Bon, nous l'appelons aussi la Bible, du grec biblion, qui veut dire le livre par excellence. L'Écriture sainte, c'est la collection des livres saints qui sont composés, qui ont été composés sous la motion de l'Esprit Saint, à des époques diverses, en des langues différentes, par des auteurs choisis de Dieu, et qui sont reçus par l'Église comme inspirés. Alors pour faire plus court, qu'est-ce que c'est que l'Écriture sainte? C'est la parole de Dieu écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais évidemment, ce sur quoi nous allons nous arrêter dans quelques instants, ça va être l'inspiration. Parce que cette inspiration de Dieu distingue la Sainte Écriture précisément de toutes les autres collections. Toute votre belle bibliothèque de livres chez vous, je vais dire, ce n'est rien par rapport à la Sainte Écriture. Parce que la Sainte Écriture a été inspirée par Dieu. Donc on va voir ce que ça veut dire. Alors que tous vos classiques n'ont pas été inspirés par Dieu. Corneille, Molière, tout ça, Racine, même si c'est magnifique, néanmoins, ce n'est pas inspiré par Dieu. Shakespeare non plus. Donc l'Écriture sainte, c'est l'inspiration qui la distingue des autres collections de livres. Alors, question un petit peu anecdotique, mais je pense que ça peut peut-être être intéressant. Comment est divisée l'Écriture sainte? Bon, évidemment, je pense que vous avez sans doute toute une Bible chez vous. Et peut-être l'avez-vous lu en entier, je ne sais pas. Mais il y a 73 livres. Donc, composé de 73 livres. Donc, elle est divisée en deux grandes parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça, ce n'est pas difficile. L'Ancien Testament avant notre Seigneur, le Nouveau Testament après. Dans l'Ancien Testament, donc, vous avez, comme dans le Nouveau d'ailleurs, on divise en trois grandes catégories. On parle des livres historiques, donc les livres historiques de l'Ancien Testament, les livres historiques du Nouveau Testament. Ensuite, les livres qu'on appelle didactiques, donc livres historiques c'est facile, c'est qu'ils racontent une histoire, qu'ils racontent l'histoire. Didactiques, on les appelle aussi les livres sapientiaux, c'est ce qui concerne un enseignement, ça donne un enseignement. Et puis, la troisième catégorie de livres, les livres prophétiques. Comme le nom l'indique, annoncent des événements futurs. Livres prophétiques. Donc, vous avez ces trois grandes catégories que nous retrouvons dans l'Ancien Testament, où sur les 73 livres, il y en a 46 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Alors, quels sont les livres historiques de l'Ancien Testament? Bon, vous en connaissez certainement quelques-uns. Le livre de la Genèse, le livre de Deutéronome, le livre de l'Exode, etc., Lévitique, les Nombres, le livre de Josué, le livre des Rois, etc. Donc tous ces livres qui racontent l'histoire du peuple juif, depuis la création du monde, jusqu'avec le dernier livre, donc les livres des Maccabées, qui s'arrêtent à peu près au IIe siècle avant Jésus-Christ, donc qui raconte un peu l'histoire du peuple juif jusqu'à à peu près 870 ans avant l'arrivée de notre Seigneur. Les livres historiques de l'Ancien Testament. Vous avez les livres sapientiaux, les livres moraux. Vous en connaissez certainement quelques-uns parce qu'on en lit dans la liturgie. Le livre, les plus connus, d'abord les psaumes. Les psaumes, nous avons chanté complet tout à l'heure. Eh bien, nous chantons au moins déjà trois psaumes accomplis sur les 150, vous me direz. Mais on en chante trois, puis vous avez les psaumes à la messe, « In troibalatare dei », ça c'est le psaume 42, etc. Donc ça fait partie des livres didactiques. Livres, ce qu'on appelle des proverbes, de l'ecclésiastique, livres de la sagesse, etc. Hein, voilà certains livres de l'Ancien Testament. Et puis ensuite, les livres prophétiques de l'Ancien Testament. Vous avez les quatre grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Et puis ensuite, les 12 petits prophètes. Donc, qu'on connaît moins, Amos, Malachie, etc. Hein, donc, on les appelle petits prophètes, non pas parce qu'ils étaient petits en taille, mais parce que le livre est petit. Souvent, il y a quelques chapitres. Alors que les grands prophètes, ont écrit plusieurs chapitres. Le livre d'Isaïe doit avoir 60 chapitres, etc. Donc beaucoup plus important. Alors que vous avez un grand prophète qui n'est pas cité dans les livres, mais parce qu'il n'a rien écrit, c'est Élie. Élie, c'est un grand prophète, mais on ne le cite pas parce qu'il n'a rien écrit. Voilà, dans le Nouveau Testament, vous le connaissez plus, les livres historiques du Nouveau Testament, interrogation, les quatre évangiles, évidemment, hein, et les actes des apôtres, hein, ne pas l'oublier. Ensuite, les livres sapientiaux du Nouveau Testament, ce sont les épîtres de saint Paul, les 14 épîtres de saint Paul, plus les 7 épîtres catholiques, 2 de saint Pierre, 3 de saint Jean, 1 de saint Jude, 1 de saint Jacques. Saint Jacques, le mineur ou le majeur? Une chance sur deux. Non, le mineur. Saint Jacques le mineur, c'est celui qui est le cousin de notre Seigneur, qui est évêque, celui qui a été évêque de Jérusalem. À ne pas confondre avec saint Jacques le majeur, qui lui était le frère de saint Jean et qui est allé en Espagne et qui a été le premier apôtre martyr, saint Jacques le majeur. Donc là, l'épître, c'est saint Jacques le mineur. Et puis ensuite, est-ce qu'il y a un livre prophétique du Nouveau Testament? Eh bien oui, l'Apocalypse. L'Apocalypse est le seul livre prophétique du Nouveau Testament. Voilà, question anecdotique, donc c'est bien à voir à peu près, connaître à peu près quand même ce qu'on a dans la Sainte Écriture, dans la Bible. Voyons maintenant l'inspiration. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est évidemment ce qui est de plus important, qui distingue donc la Bible, l'Écriture sainte, d'un autre livre, d'autres livres. Donc les livres qui composent notre Bible sont inspirés. Qu'est-ce que c'est que l'inspiration ? L'inspiration, d'abord, c'est quelque chose c'est un fait d'un ordre surnaturel. C'est-à-dire qu'il ne peut être connu que par le témoignage de Dieu lui-même, hein, que l'Église nous transmet. C'est quelque chose de surnaturel. Et le Concile Vatican Ier, en 1870, précise, si quelqu'un ne reçoit pas comme saint et canonique tous les livres de la Sainte Écriture, avec toutes leurs parties, telles qu'ils sont énumérées par le Concile de Trente, et ni qu'il soit divinement inspiré, qu'il soit anathème. Donc au moins c'est clair, c'est pas Vatican II, c'est Vatican Ier, c'est clair, si on ne croit pas que les livres sont divinement inspirés, nous sommes anathème, c'est-à-dire excommunié. Le terme latin d'anathème, c'est excommunié. Donc on n'est pas catholique, tout simplement. Alors quelles sont quand même les preuves que nous trouvons qui nous montrent que la Sainte Écriture est bien inspirée par Dieu? Eh bien, tout simplement, notre Seigneur lui-même. Notre Seigneur lui-même va dire à un moment, donc on a cette citation dans saint Marc, par exemple, chapitre 12, 36. Il dit, voilà, notre Seigneur, prenant la parole, Jésus disait en enseignant dans le temple, « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est fils de David ? C'est David lui-même qui a dit par l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis dessous tes pieds. » Et ça, vous reconnaissez, notre Seigneur cite le psaume 109 que nous chantons tous les dimanches à Vêpres. Et oui, vous l'avez reconnu, c'est évident. Hein? Dixit dominus domino meo. Ah, voilà, en latin, c'est quand même plus clair. C'est dead excess meis. Voilà, ça, c'est plus clair en latin, hein, je savais. Ben, vous voyez, notre Seigneur dit, c'est David lui-même qui a dit par l'Esprit Saint. Vous voyez, notre Seigneur dit bien, David était inspiré quand il a fait ce psaume. Et ensuite, on voit bien aussi dans la vie de notre Seigneur qu'il utilise souvent la Sainte Écriture comme argument d'autorité. Et au point que les pharisiens, que les juifs disent « Mais comment se fait-il que lui connaisse les Saintes Écritures ? On ne l'a jamais vu à l'école. » Et puis voilà qu'il cite les Saintes Écritures avec autorité. Ils disent même « avec autorité ». Eh bien, notre Seigneur, justement, montre bien que la Sainte Écriture est la parole de Dieu. Déjà, on le voit dans les évangiles. Ensuite, vous avez d'autres passages, saint Paul va l'affirmer aussi clairement, dans sa deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 16. Un de ses chouchous. Pour toi, oui, un de ses favoris, pardon. Pour toi, tiens-toi à ce que tu as appris et dont tu as acquis la certitude. Tu sais de quel maître tu le tiens. Et c'est depuis ton plus jeune âge que tu connais les saintes lettres. Elles sont à même de te procurer la sagesse qui conduit au salut par la foi dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui, saint Paul le dit vraiment clairement. Alors, vous me direz, oui, mais saint Paul, c'est pas saint Pierre. Eh bien, pas de chance, saint Pierre aussi en parle. Saint Pierre, dans sa deuxième épître, au chapitre 1er, verset 20. Avant tout, sachez-le, aucune prophétie d'écriture n'est objet d'explication personnelle. Ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie. C'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc vous voyez, les témoignages sont clairs. Saint Pierre, Saint Paul, notre Seigneur lui-même, parlent bien de cette inspiration de la Sainte Écriture. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire quand ces hommes, ces écrivains sacrés, étaient inspirés de Dieu? Eh bien l'inspiration, c'est un influx divin, tout simplement. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui, par une opération surnaturelle, a excité leur volonté à écrire. Voilà, il faut que tu écrives. Et en même temps, il a illuminé leur intelligence. De telle sorte, eh bien, qu'ils n'ont écrit que ce que Dieu a voulu et comme il l'a voulu. Ils n'ont écrit que ce que Dieu a voulu et comme il l'a voulu. Donc, si vous voulez, leur intelligence a été illuminée par cette inspiration du Saint-Esprit, et leur volonté a été mue. Voilà, il faut que j'écrive cela, je vois ces choses, il faut que je l'écrive. Ainsi, comme on dit, Dieu va être la cause principale, la cause immédiate de la Sainte Écriture. Et alors l'écrivain sacré, qu'est-ce qu'il est? Eh bien l'écrivain sacré, il n'est que la cause instrumentale, ce qu'on appelle la cause instrumentale. Ouh, c'est compliqué. Ah non, c'est très simple. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'en vois certaines qui écrivent. Bien. Si je reprends un de vos cahiers, je vais dire, est-ce que je vais demander quel est le crayon, quel est le stylo qui a écrit ça? Ben non. Je vais demander qui a écrit ça? Eh ben, ça va être un tel, une telle, une telle. Ça va pas être le stylo. Alors, si vous voulez, Dieu, c'est la cause principale. Et le stylo, c'est l'écrivain sacré. Voilà, si vous voulez, l'écrivain sacré était, si je puis dire, dans les mains de Dieu pour écrire la Sainte Écriture. Mais c'est exactement la même chose. De même façon, quand vous écrivez quelque chose, on va pas dire, le stylo est une cause matérielle, si vous voulez. C'est vrai, c'est l'encre du stylo, mais celui qui a formé les caractères, et puis surtout l'essentiel de ce qui a été écrit, c'est la personne qui a écrit, qui est l'auteur de l'écrit. Eh bien voilà, appliquez la même image. Alors, de toute façon, vous savez bien, les enfants savent très bien faire la différence. Oh, mon petit Jean, c'est très bien ta dictée, c'est dommage. Oh, tu n'as eu que 15. Oh là, tu as vraiment fait quand même des fautes un peu stupides. Monsieur, c'est pas moi, c'est mon stylo. Zéro. Tu te moques de moi. Oui. Alors, c'est pas moi qui a frappé, c'est ma main. C'est un peu la même chose. Donc, si vous voulez, c'est vraiment Dieu qui est l'auteur principal de la Sainte Écriture et l'écrivain sacré n'est que la cause instrumentale. Donc, si vous voulez, l'écrivain sacré a eu son intelligence illuminée et puis il a été déterminé à écrire. Mais jusqu'où s'étend cette inspiration? Bien évidemment, elle s'étend, alors vous allez dire, mais... Bon, je ne sais pas, est-ce que la page 3 est inspirée? La page 4, non, elle n'est pas inspirée. La page 5, si. La page 6, oui, non, etc. Oh ben là, non, ce n'est pas possible, ça, ce n'est pas inspiré. Ça, je ne comprends rien, donc ce n'est pas inspiré, etc. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut réagir? Non. Eh bien, l'inspiration s'étend à tout le contenu de la Bible. Tout contenu de la Bible. Saint Paul, dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure, nous dit bien toute écriture. Il ne nous dit pas la moitié, non, tout ce que vous comprenez c'est inspiré, mais pas le reste. Non, il dit toute l'écriture est inspirée. Tous les détails, même tous les détails de la Bible sont inspirés. Même ce qu'on appelle les obiter dicta, ce qui est dit en passant. On voit un moment, je crois, oui c'est ça, c'est le chien de Toby. Le chien était tout content de trouver Toby, donc il remue la queue. La Sainte Écriture reparle. Eh bien, est-ce que c'est inspiré par Dieu? Ben oui. Oui, parce que ça s'est vraiment réalisé. Le chien de Toby a bien remué la queue quand il a vu son maître arriver. Bon, ben oui, c'est vrai, c'est parole d'évangile, enfin parole de livre de Toby, mais c'est inspiré par Dieu. Donc toute la Bible, effectivement, est inspirée par Dieu. Ben, ça se comprend puisque ce que Dieu est l'auteur principal du livre inspiré, donc tout le contenu est inspiré. Donc il s'ensuit évidemment que toutes les affirmations de l'auteur sacré vont jouir de quoi ? Ben, vont jouir de l'infaillibilité. Et ça, c'est une conséquence qu'on va appeler l'inhérence. Et on arrive à une autre distinction qu'on appelle l'inhérence. Alors c'est un mot qu'on ne connaît peut-être pas en français, I-N-E-2-R-A-N-C-E. Bon, l'inhérence, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se tromper. En effet, il n'y a pas et il ne peut pas y avoir d'erreur dans la Bible. Pourquoi ? Parce que si il y avait une erreur, cette erreur serait imputable à Dieu. Or, Dieu est la véracité et la vérité même, et donc Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Donc, mettre une erreur dans la Bible veut dire qu'il y a une erreur en Dieu, donc que Dieu n'est pas Dieu. Alors là, j'imagine heureusement que vous êtes en silence, parce qu'autrement, il y aurait plein de questions. Mais attendez, là, il y a des contradictions, mais attendez, il y a des choses, c'est pas possible, c'est pas vrai, non hein. Alors évidemment, il y a plein d'objections qui se présentent, mais là, ce que j'ai dit, ce sont les principes et on en trouve une des applications. Alors par exemple, puisque la Bible est exemple d'erreur, donc il ne peut pas y avoir d'erreur, il ne saurait y avoir par exemple de contradiction entre les affirmations de la Bible et les conclusions de la science. On ne peut pas opposer la Bible et la science, que ce soit la science physique, la chimie, la biologie, tout ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce que Dieu est l'auteur de l'une et de l'autre. Il est auteur de la Sainte Écriture, il est aussi auteur des lois de la nature. Donc Dieu ne peut pas se contredire. Alors, est-ce que c'est possible ? Ben oui. Exemple flagrant, l'évolution. L'évolution. L'homme descend du singe. Bon. Vous avez ça dans tous les manuels de biologie. Toutes celles qui sont sorties de l'école ou autres, c'est au programme du bac, enfin, l'évolution, c'est le dogme. On vous fait des livres de sciences naturelles pour vous prouver que si, bien sûr, on descend du singe, on descend de l'arbre, non pas de l'arbre, du cheval ou de la cheval de la grenouille, de bactracien ou je ne sais pas quoi, enfin bref, de la bactérie. Bon, on veut vous expliquer ça. C'est en contradiction flagrante avec la Bible. Puisque la Bible nous dit bien, c'est Adam qui est le père du genre humain. Donc, c'est deux choses contradictoires. Donc, l'un est vrai, l'autre est faux. C'est évident. Alors, nous, on va dire, c'est Adam qui est le père du genre humain, qui a été créé directement par Dieu. Ça, c'est vrai. Ensuite, l'évolution, c'est faux. Alors, ceux qui tiennent pour les partisans de l'évolution, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Alors, qu'est-ce qu'on va leur demander ? Bah, prouvez-le nous. Est-ce qu'ils l'ont prouvé ? Ah, toujours pas. Ils l'ont pas encore prouvé. On parle toujours des chaînons manquants, mais ils le cherchent toujours. Hein. Ils peuvent le chercher encore longtemps, le chaînon manquant. Parce que c'est pas possible. Dans la Sainte Écriture, nous avons l'affirmation, effectivement, Adam a été créé directement par Dieu. C'est comme ça. Donc, vouloir prouver, non, je vous assure, c'est les singes, ils n'y arriveront pas. C'est impossible. Donc, vous voyez, gardons l'évolution comme un conte de fées pour grandes personnes, comme disait ce brave, je crois, Rostand. Ensuite, évidemment, on va vous dire, mais il y a contradiction dans des passages de la Bible. Oui, si regardez, là, on vous dit ça, puis à l'autre endroit, on vous dit ça. C'est contradictoire. Et vous allez prendre un exemple. Est-ce que vous n'avez pas été interloqué? Dimanche. On a écouté l'évangile de dimanche. Tic, tic, multiplication des pains. On a le sixième dimanche après la Pentecôte. Et puis, vous allez prendre quatrième dimanche de carême. Nous avons aussi l'évangile de la multiplication des pains. Mais ces deux récits différents. On connaît plus celui du quatrième dimanche de carême, où on a ce fameux petit garçon qui apporte 5 pains et 2 poissons, et il y a une foule de 5 000 hommes, etc., et on ramasse 12 corbeilles à la fin. Et puis hier, l'évangile nous parle, bon, il ne parle plus de petit garçon, il parle de 7 pains, il parle de 4 000 hommes, et on ne ramasse que 7 corbeilles à la fin. On va dire, donc, il y a contradiction. Donc, les évangiles se sont trompés. Donc, voilà, je vous l'avais bien dit, c'est pas faux. Où est la solution? Ben, tout simplement, c'est qu'il y en a eu deux. Il y a eu 2 multiplications des pains. Et effectivement, quand vous examinez bien la chronologie, vous vous rendez bien compte qu'effectivement, il y a bien eu 2 multiplications des pains. Donc, pour qu'il y ait contradiction, il faudrait que l'affirmation porte sur les mêmes personnes, le même objet considéré dans le même temps et dans les mêmes circonstances. Et quand vous faites, quand vous cherchez, quand vous regardez les pères de l'Église, mais vous rendez compte que ce n'est pas le cas. Il y a bien, notre Seigneur a bien fait 2 multiplications des pains. Donc vous voyez, toutes les... Bon, ça ne veut pas dire qu'on résout tout cela très facilement. C'est vrai que dans la Bible, de temps en temps, il y a des choses un peu difficiles à comprendre, c'est vrai. Mais souvent, par le temps, des choses ont été résolues, ou même des pères nous ont éclairés. Mais en tout cas, c'est certain, il ne peut pas y avoir de contradiction. Autrement, ça veut dire mettre contradiction en Dieu. Alors évidemment, quand je parlais de l'inspiration, l'inhérence, ça concerne évidemment l'original. Cela aussi, et ça se voit, c'est vrai, c'est qu'il y a eu des erreurs de copistes. Pour nous, maintenant, au XXIe siècle, c'est facile, il y a le laser, il y a la photocopieuse, il y a tout ce que vous voulez, c'est facile de faire des livres sans erreur. Mais à l'époque, c'était à la main, à la bougie, sur des papyrus, etc. Donc, il y a eu des erreurs de copistes. Oui, ils ont fait des fautes d'orthographe, ils ont fait des fautes dans des nombres, etc. Donc, ce qui veut dire que certains endroits, c'est pas là, vous ne trouvez pas les mêmes chiffres, etc. Bon, là, ça, c'est des erreurs de copistes. Donc, ça ne touche pas à la fiabilité de la Sainte Écriture. Voilà, tout cela, bien, c'était bien pour vous rappeler cette importance de l'Écriture sainte. Donc, si nous sommes bien persuadés que c'est la parole de Dieu, eh bien, c'est que si Dieu nous l'a donnée, ce n'est pas pour rien. C'est qu'elle va être maintenant utile. Donc, la Sainte Écriture est utile pour nous. Elle est utile pour nous. D'ailleurs, l'Église l'utilise sans arrêt dans sa liturgie. Regardez les dimanches, les jours de fête. L'Église va l'utiliser, va la commenter de différentes manières, par différents textes. Elle nous fait prier sur les psaumes, sur les livres sapientiaux, etc. Regardez, par exemple, le carême. Le carême est vraiment très riche. Vous avez des épîtres chaque jour, une épître spéciale, un évangile spécial. Donc, une bonne partie de la Sainte Écriture défile sous nos yeux. Regardez aussi comment l'Église respecte la Sainte Écriture. Les messes chantées, ou encore c'est plus flagrant dans les messes solennelles, voyez comment le diacre porte l'évangéliaire et comment l'évangile est encensé. Il est encensé parce que c'est vraiment la parole de Dieu. Et quand le prêtre, après avoir lu l'évangile, il baise l'évangile en disant « Per evangelii dicta, delantur nostra delicta ». Donc, que nos péchés soient détruits, soient effacés par cette lecture de l'évangile. Donc, vous voyez, est attaché des grâces à la lecture spéciale de l'Évangile. Et d'ailleurs, je n'ai pas vérifié, mais je crois ne pas me tromper, il me semble que faire une lecture d'une demi-heure par jour de Sainte Écriture est attaché à une indulgence plénière. Bon, certainement partielle, mais il me semble même qu'elle est plénière. Donc, vous voyez l'importance que l'Église y attache. Donc, sachons bien nous en imprégner. Et pour essayer de vous donner un petit un goût, voir comment on peut méditer sur la Sainte Écriture. Je vais juste vous parler très rapidement d'un épisode que vous connaissez, mais montrer comment on peut en tirer beaucoup de profit. C'est l'épisode du sacrifice d'Isaac par son père Abraham. Alors, vous savez qu'Abraham, donc après avoir quitté son pays, est venu en Terre Sainte, etc., donc son épouse était Sarah, et Dieu lui a promis d'être le père d'un grand peuple. Et voilà que sa femme Sarah était stérile, n'avait pas d'enfant. Et Abraham, néanmoins, a toujours cru, bref. Et Dieu lui dit à un moment, voilà, maintenant ta femme va concevoir un fils, etc., et tu lui donneras donc le nom d'Isaac. Donc, ce qu'il fait, Sarah met au monde ce fils, c'est Isaac. Et puis voilà qu'Isaac grandit. Dieu dit, prends ton fils, ton unique que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Abraham se leva aussitôt, sella son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l'holocauste et se mit en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Demeurez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas, nous adorons et nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois de l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Lui-même prit en main le feu et le couteau. Ils s'en allèrent tous deux ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et dit, « Mon père !» Il répondit, « Oui, mon fils. » « Eh bien, reprit-il, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « C'est Dieu qui pourvoira l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham éleva l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange de Dieu l'appela du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris par les cornes dans un buisson, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À ce lieu, Abraham donna le nom de « Dieu y pourvoit », en sorte qu'on dit aujourd'hui sur la montagne « Dieu y pourvoit ». Voilà cet épisode, c'est très simple, très court. Essayons de maintenant nous remettre dans la véritable atmosphère. Donc déjà, Abraham n'a qu'un fils, Isaac. Donc Dieu lui a dit, tu seras le père d'un grand peuple. Et voilà que Dieu lui demande d'immoler son fils. Alors, déjà, première chose, on peut imaginer le saisissement d'Abraham. Quand Dieu dit, prends ton fils, ton unique que tu chéris, et va-t'en au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Je ne sais pas quelle peut être la réaction d'un père de famille en lui demandant, prends ton fils et va l'immoler. Ah oui, déjà, et quand Abraham dit, se leva aussitôt, selle son âme, tout de suite, on voit son obéissance. On voit. Mais ça n'enlève pas, certainement, la souffrance d'Abraham. Certainement la souffrance est... Je veux dire, peut-être la plupart d'entre vous, évidemment, vous êtes mère de famille, donc vous pouvez imaginer un petit peu la souffrance qu'a dû rencontrer Abraham. Et surtout, ce voyage a duré 3 jours. Oui, pendant 3 jours, Abraham s'est dit, je vais immoler mon fils. On se dit, et néanmoins, il le fait. Alors là, on retrouve dans Abraham... Cette obéissance qu'il a eue déjà dès le départ quand il était à Ur en Chaldée et quand Dieu lui a dit de partir, de quitter son pays, sa famille et d'aller dans la terre promise. Là, pareil, Abraham fait les valises, il part à l'inconnu. Il va dans un pays qu'il ne connaît pas, mais il sait pertinemment c'est la volonté de Dieu, alors il y va. Et là, pareil, il voit c'est la volonté de Dieu, j'obéis. Donc il se rend. Vous avez Saint Jean Chrysostome qui fait un très beau commentaire. Méditez ce que dut supporter l'homme juste durant cette longue durée de 3 jours. Obsédé par la pensée qu'il lui fallait tuer de ses propres mains ce fils tant aimé, qui ne pouvait révéler cet ordre à personne, et soyez stupéfait d'admiration devant tant de piété et de sagesse. Il était seul, solide comme le diamant, soutenant ce combat en son fort intérieur. Il demeurait invincible, inébranlable dans sa résolution, sans succomber aux prétextes sans nombre, plein d'amour, plein de zèle pour obéir au seul signe de Dieu. On arrive au mont Moria. Donc ce mont Moria était l'endroit où plus tard allait s'élever le temple de Salomon. Et c'est là aussi où la tradition nous dit que Melchisédek offrait ses sacrifices donc du pain et du vin. On voit ensuite, donc Abraham se sépare de ses serviteurs, il donne le bois à son fils Isaac. Donc Isaac va porter le bois. Isaac, à ce moment-là, il a à peu près entre 25 et 35 ans. Et Abraham, lui, est centenaire, il a à peu près autour de 100 ans. Aussi, autre chose à remarquer, c'est l'héroïsme d'Isaac. Parce que Isaac donc, porte le bois, il pose donc, la question à son père, mais où se trouve la victime? Bon, là aussi, j'imagine dans le cœur d'Abraham, ça a dû encore un peu plus remuer le couteau. Mais il porte ce bois, et puis voilà qu'on arrive, donc on installe le bûcher. Et qu'est-ce que fait Abraham? Eh bien, il prend son fils, il l'attache, et il le met sur le bûcher. Isaac a compris. Parce que il aurait très bien pu partir. Il avait, je veux dire, en pleine force de l'âge, il y a autour de 30 ans, son père une centaine d'années, 100 ans. Je crois qu'il aurait, d'une bouchée, il aurait très bien pu envoyer son père un peu loin, et puis il serait parti en courant, et puis ça aurait été fini. Non, il a accepté. Donc on voit aussi l'héroïsme de la part d'Isaac. Donc on voit le courage aussi qu'il lui a fallu. Donc vous voyez, on voit cet épisode vraiment de manière dramatique. Je ne vois pas pourquoi, effectivement, Corneille n'y a pas pensé. Rodrigue a du cœur. Mais là, il aurait eu un élément vraiment, vraiment à faire, quoi, à montrer cet aspect très dramatique. Non, Abraham donc l'attache au bûcher. Encore une fois, ce n'est pas pour le maîtriser, parce que Isaac aurait bien pu partir. Mais ils acceptent la volonté de Dieu. Mais ensuite, évidemment, certains ont dit, oui, voyez, Dieu veut les sacrifices humains. Ensuite, d'ailleurs, ça arrivera, enfin, dans les païens, ça arrivera, puis même chez les Hébreux, ils feront aussi des sacrifices humains. Mais certains disent, ils accusent Dieu. Et comment ce que Dieu demande, c'est quand même inhumain, etc. Dieu demande un péché à Abraham. Alors, évidemment, il faut répondre que non. Pourquoi? Parce que Dieu est maître absolu de la vie et de la mort. Donc, en soi, Dieu pouvait très bien demander à Abraham le sacrifice d'Isaac. Ça, il n'y a pas de faute de la part de Dieu. Il est maître de la vie et de la mort. En obéissant au précepte divin, est-ce qu'Abraham aurait commis un homicide? Non. À partir du moment où il a la certitude que c'est Dieu qui lui demande, il ne commet pas d'homicide. Là, il ne fait qu'obéir à Dieu. Mais néanmoins, vous voyez, Dieu n'a pas voulu le sacrifice humain. Il a accepté le sacrifice de la volonté, mais il n'a pas voulu le sacrifice humain. Ce qui montre qu'effectivement, après tous les sacrifices humains qui se feront, je sais pas, au Mexique ou partout ailleurs, par les païens, eh bien, ne seront jamais évidemment agréés par Dieu. Et même les Juifs se laisseront aller à des moments à des sacrifices humains. Vous avez dans le psaume 105 qui en parle, ils immolèrent leurs fils et leurs filles aux démons, ils ont répondu le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles qu'ils ont sacrifié aux idoles de Canaan, au point que la terre fut infectée par le sang. Donc là, Mais Dieu, voyez par là même, a toujours refusé les sacrifices humains. L'expérience donc était suffisante aux yeux de Dieu, parce que ce sacrifice n'avait qu'une valeur figurative. Donc c'est ce qu'on appelle le caractère typique du sacrifice d'Abraham. En effet, là aussi, il faut savoir que toute la Bible est ordonnée tout entière, déjà de livre de la Genèse à Apocalypse, à Jésus-Christ. C'est de moi qu'ont parlé Moïse et les prophètes, dit notre Seigneur. Donc, il y a un sens qu'on appelle un sens spirituel, un sens mystique. Ça, c'est un sens caché, par lequel, à l'aide des choses ou des personnes désignées par des mots, Esprit Saint nous désigne des événements ou des personnes à venir. Par exemple, eh bien, vous connaissez certainement toute cette explication. Isaac portant sur le bois de son sacrifice est l'image de notre Seigneur portant le bois de sa croix. Donc ça, nous découvrons ce qu'on appelle ce sens mystique, que les pères de l'Église, la liturgie ou la liturgie nous ont souvent montré. Voilà ce que disent certains. Comme Isaac, Jésus s'est chargé du bois du sacrifice. Isaac consent librement à mourir. Et cependant, son père le lie sur le bûcher comme s'il ne mourait que par force. Jésus aussi, qui donne sa vie avec une souveraine liberté, se laisse attacher par des clous à la croix. Vous voyez, Isaac, l'image de notre Seigneur. Isaac est étendu sur le bûcher par son père qui mettait en lui tout son amour. Jésus est la victime offerte à Dieu le Père qui avait mis en lui toutes ses complaisances. Tous deux obéissent jusqu'à la mort, ils en triomphent l'un et l'autre. Isaac n'est immolé et ne ressuscite qu'en figure, parce que son sacrifice n'était lui-même qu'une figure. Mais Jésus-Christ donne réellement sa vie, il la reprend effectivement parce que son sacrifice est la réalité. Vous voyez, Isaac, vraiment figure de notre Seigneur. Mais ensuite, on peut, si vous voulez, approfondir un peu plus, en trouver d'autres sens à ce sacrifice, voir le sacrifice aussi de la Sainte Vierge. Première ébauche du sacrifice qu'aurait à subir la très Sainte Vierge Marie. Parce que c'est à elle aussi qu'allait être demandé un acte d'héroïsme inégalable. Pour faire écho à celui du Père sacrifiant son Fils. Là aussi, imaginez le sacrifice de Notre-Dame. Prends ton Fils unique. On peut vraiment faire la comparaison. Ce qu'Abraham a dû souffrir, ressentir, n'était vraiment qu'une image de ce que la Sainte Vierge aussi a subi. Certainement, un glaive de douleur te transpercera l'âme. Et là aussi, vraiment, chez Notre-Dame, on l'a vu à ce moment-là. Donc on peut vraiment comparer, voir dans ce sacrifice d'Abraham, d'Isaac, et bien le sacrifice de la Sainte Vierge. Et puis, je vais bientôt m'arrêter, voir ensuite en nous, est-ce qu'on peut trouver une image de nos sacrifices? Eh bien on peut voir aussi dans ce sacrifice d'Isaac, le sacrifice de beaucoup de mères dans l'histoire du monde, de pères aussi, de mères, qui ont vu, par exemple, leur enfant mourir sous leurs yeux. Vous avez le cas dans des persécutions. Vous avez l'histoire de ce qu'on appelle la mère des Maccabées, les sept fils, que la mère voit mourir l'un après l'autre. Et les persécuteurs, donc, ils voulaient donc ça se passe avant Jésus-Christ, mais qu'ils renient la loi de Moïse, et eux, évidemment, n'étaient pas question. Alors les persécuteurs, donc c'était les Perses, vont prendre les sept enfants, ils vont commencer par l'aîné, ils vont les faire mourir les uns après les autres par supplice, jusqu'au dernier, jusqu'au plus jeune, et à la fin à la mère. Et la mère, au contraire, était là, les suppliant de rester fidèle. Puis vous avez aussi Saint-Symphorien, pareil, la mère de Saint-Symphorien, l'excitant à mourir. Et bien ça fait aussi, c'est l'image, on peut voir cette image. Et pour nous ensuite, plus concrètement, bien, est-ce qu'on ne peut pas voir aussi cette image du sacrifice d'un de ses enfants, eh bien, peut-être chez les parents, qui, lorsqu'il s'agit de mener un jeune homme ou une jeune fille qui a la vocation, l'appel de Dieu. Ça peut demander aussi au cœur d'une mère ou d'un père, eh bien, un sacrifice. On peut voir aussi l'image de ce sacrifice. Bon, bien sûr qu'il peut être compensé par l'honneur que Dieu appelle un de leurs enfants, c'est vrai, mais je pense qu'aussi au niveau naturel, il existe quand même une certaine séparation, donc un certain sacrifice. Donc on peut y trouver aussi cette image dans ce sacrifice d'Isaac par Abraham. Voilà, donc peut-être trop rapidement commenté ces bel épisode, mais voyez, n'hésitez pas de votre côté à lire les évangiles, évidemment c'est très facile, ça vous pouvez les lire sans difficulté, à méditer aussi sur les psaumes qu'ont évidemment les prêtres récitent dans leur bréviaire, donc les 150 psaumes dans la semaine, très belle prière. On a vraiment tous les éléments dans les psaumes pour prier, d'action de grâce, demander pardon, demander que justice soit faite, demander toutes les grâces dont nous avons besoin. Donc on trouve, par exemple, les psaumes de complice, souvent c'est des psaumes de confiance, confiance dans la paix d'un miséricorde de Dieu, etc. Donc aimez donc vraiment à prier, à lire la Sainte Écriture et à vous en imprégner. Parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment la parole de Dieu. Et Dieu peut nous parler aussi par la Sainte Écriture, peut nous montrer telle chose, telle grâce dont nous avons besoin, ou recevoir telle lumière que nous trouverons dans la Sainte Écriture. Alors ayons à cœur donc toujours de bien aimer et de lire et de méditer ainsi la Sainte Écriture. Voilà, maintenant nous allons tout simplement nous rendre à la... Alors le thème de la conférence de ce soir, c'est conclusion. C'est pas une blague, c'est marqué sur mon programme. En conclusion, alors comment conclure? Comment sortir du paradis? Ou de l'enfer? Bon, je pense peut-être le paradis quand même, enfin disons un avant-goût. Alors je pense que vous avez compris, avec toutes ces conférences, un peu le plan de la retraite. Nous sommes partis de Dieu, nous avons vu l'obstacle au plan de Dieu, donc le péché, et puis le retour à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par les sacrements, par la prière. Donc cela vous a conduite à prendre des résolutions, hein, comment retourner vers Dieu, dans le but de corriger ce qui n'allait pas, de corriger ce qui est un obstacle à l'habitation de Dieu dans votre âme, et puis certainement aussi à corriger vos défauts. Donc maintenant, vous êtes pleine de zèle, j'espère du moins. Et il y a quand même quelqu'un, je pense, qui veut mettre un grain de sable là-dedans. Dans toute cette belle mécanique, bien où il est, vous avez fait la vidange, vous avez fait graissage du moteur, enfin, a priori, on a resserré les boulons un peu partout. Donc maintenant, tout va bien, seulement, ben, quelqu'un veut mettre un grain de sable. Alors, je vais m'imaginer, pendant quelques instants, être ce fameux grain de sable. Je vais revêtir un habit qui ressemblerait plutôt à celui du démon. Et si j'étais à sa place, qu'est-ce que je vous dirais? Tu n'as pris que 2 résolutions? Mais quel manque de générosité! Comment 2 résolutions? Mais il faut en prendre au moins 30. Donc commençons par la prière. Oh, je vois, tu as pris quoi? Prière du matin, prière du soir? C'est pas suffisant. Là, ce matin, je crois qu'il y a eu un sermon, je crois, sur le rosaire. Alors, le rosaire. Ah oui, c'est vrai, le rosaire. Le rosaire, je prends le rosaire. Mais tu n'es pas toute seule, hein? Donc, c'est pas uniquement pour toi. Allez, pour toute la famille. Rosaire pour toute la famille. Bien. Alors, maintenant, il faut mettre les horaires, parce que si on ne met pas les horaires, ça ne marche pas, les résolutions. Si on ne prend pas un emploi du temps, on ne tient rien. Bon. Alors, premier chapelet, tu le mets à 6h30, évidemment. 6h30? Bah oui, parce que tu sais très bien qu'à 7h, il faut prendre le petit déjeuner, il faut lever, voilà. Donc, 6h30, premier chapelet. Bon, pour toute la famille, 6h30, premier chapelet. Ensuite, il faut caser le deuxième. Bon, je pense que le moment le plus propice, mets-le avant le repas de midi. Tout le monde rentre pour déjeuner, c'est le moment où jamais. Deuxième chapelet à midi. Midi, deuxième chapelet. Bon, le troisième. Bah, le troisième, c'est évident, avant le repas du soir. Tout le monde rentre, troisième chapelet, avant la prière du soir. C'est tout? Ben oui, ça fait un, deux, trois chapelets, ça fait le rosaire. Tu réfléchis pas là. Le chapelet, quand on est un chapelet, on a toujours des distractions. Donc les trois, ils sont certainement mal dits, donc il faut en mettre un quatrième pour être sûr que les trois autres soient bien dits. Donc quatrième chapelet avant le coucher. Bien, maintenant, la messe, le dimanche, une seule messe? Non, deux messes le dimanche. Allez, résolution, deux messes le dimanche. Alors pour la tenue, on a beaucoup parlé de la tenue, je crois. Et voilà ce qu'il faut que tu fasses. Bonsoir. Vous avez fait, évidemment, vous êtes passé avant dans un magasin, ça fait si longtemps. Ah, je suis mauvaise langue, pardon. Bref, vous avez fait quelques courses qui étaient nécessaires. Et vous arrivez chez vous. Mes clés. J'ai oublié mes clés. Où j'ai mis mes clés? Bon, je sonne. Et puis, votre mari ouvre. Bonjour madame. Ah non, je suis désolé, la mosquée c'est un peu plus loin. C'est... Comment, tu me reconnais pas? Quoi, tu t'es fait musulmane? Bah non. Non, mais finalement j'ai compris que... Bah si, le tchador, ça va très bien. Parce que plus de problème. Bah si, les habits nous ont dit de tête couverte à la chapelle, j'oublie toujours mon voile, donc là je suis sûr de l'avoir. Le tchador, bah, il couvre les épaules, donc ça va, plus d'épaules découvertes. Et puis, bah, tu vois la robe là, c'est jusqu'à la cheville là. Donc là, plus de problème de mini-jupe, réglé. Ah chérie, si t'enlèves pas ça tout de suite, moi je vais à la synagogue. Hein. Bon, c'est évidemment qu'un cas de figure. Non, heureusement, vous avez montré vos résolutions, hein, donc ça ne sera pas comme ça. Mais quand même, pour être un peu plus sérieux, le démon, le but, il dit très bien, prends tes résolutions, pour l'instant, je ne peux rien. Mais son but, après, évidemment, ça va faire des lâcher, ces résolutions. Donc, pour vous faire retomber quoi? Bah, dans vos défauts habituels, dans voir peut-être des péchés, voir la tiédeur, etc. Donc, il va essayer de vous tenter. Alors, je pense qu'il est bon, peut-être quelques minutes, de parler quand même de la tentation, c'est-à-dire de voir comment notre ennemi va agir avec nous. Vous connaissez le proverbe, un homme averti en vaut deux. Donc, quand on connaît la technique, la tactique de l'ennemi, eh bien, on peut essayer au moins de faire attention, de ne pas tomber dans tous les pièges. Alors, la tentation, d'abord, première chose qui est importante, c'est de dire qu'en soi, ce n'est pas un péché. Attention, la tentation en soi n'est pas un péché. C'est le consentement qui est un péché. Ça, c'est très important. Parce que le démon, la tentation, c'est une sollicitation au mal. Et il peut nous y solliciter, malheureusement, de mille manières, en utilisant déjà ce qu'il y a en nous, la concupiscence, nos défauts, etc. Il peut utiliser tout ça. Mais souvent, il en rajoute. Mais déjà, bien se dire, attention, je peux avoir différentes tentations, mais tant que je n'ai pas consenti, ce n'est pas un péché. Alors, comment le démon va procéder? D'abord, souvent, une simple suggestion ou représentation qui se présente à notre esprit. Donc, c'est un engagement, une sollicitation à faire quelque chose de mal. Exemple, voler un chou à la crème dans la pâtisserie. J'ai faim. Évidemment, c'est un vendredi de carême. Donc, je vois ce chou à la crème dans la pâtisserie parce qu'il faut bien que j'achète du pain. Mais j'ai quand même un peu honte d'acheter un chou à la crème un vendredi de carême. Donc, je vais essayer de faire en sorte que la boulangère ait le dos tourné pour... Chut, hop. Alors, voilà, suggestion, une idée qui passe dans l'esprit. Bon. Deuxième étape. Donc ça, c'est la première étape dans une tentation. On a une idée comme ça qui traverse. Deuxième étape, ce qu'on peut appeler une délectation, une certaine délectation, c'est-à-dire qui est une sorte de complaisance, ou disons de plaisir naturel, qui est un peu un fruit de notre concupiscence. C'est-à-dire que la vue du mal nous donne une certaine satisfaction. Bon. C'est-à-dire qu'effectivement, on commence à avoir les babines, le chou à la crème. Donc, il y a comme l'envie qui se fait de plus en plus forte. Donc, il y a une certaine délectation qui se met. Pour l'instant, ce n'est toujours pas un péché. Donc, c'est quelque chose souvent qu'on ne contrôle pas. La vue de telle chose, ça produit, c'est une réaction qui peut être naturelle. Pour l'instant, on est déjà sur la pente glissante, mais ce n'est pas encore un péché. Troisième étape, et là ça devient le péché, c'est le consentement. Le consentement, c'est-à-dire notre volonté va adhérer à l'idée, va adhérer au mal. C'est-à-dire va adhérer à ce plaisir qui est offert par la suggestion. Il est librement désiré. C'est-à-dire maintenant, on l'accepte librement. Il est voulu, il est accepté. Alors là, évidemment, on est sorti de la tentation et on est rentré dans le péché. Il y a péché si on va commettre l'action, si, hop, le chou à la crème dans la poche. Ah raté, zut, j'ai pas pensé qu'il y a de la crème. Bon. Alors, ça peut être ça. Alors là, si on fait l'action, on a fait le péché, où on consent, où on s'expose ensuite à faire l'action. Donc, on a accepté. Alors là, évidemment, on est tombé dans le péché. Mais remarquez, c'est important aussi, le péché n'est pas dans le sentiment, mais dans le consentement. C'est-à-dire que ne pas sentir la tentation, souvent, n'est pas en notre pouvoir. Encore une fois, le démon peut très bien agir sur notre sensibilité. Par contre, le consentement qui est du domaine de notre volonté, donc de notre esprit, là, c'est notre domaine. Ça fait partie de notre liberté morale et dépend absolument de notre volonté. Donc, bien distinguer les deux. Bon, c'est vrai que de temps en temps, ce n'est pas très difficile. Ou même le fait d'avoir senti quelque chose, souvent, on est troublé. On dit, est-ce que j'ai consenti, pas consenti? C'est vrai que souvent, ce n'est pas très simple à voir. Mais je crois qu'il faut garder le principe clair. Même si dans l'application, bon, on peut demander conseil. Demander des conseils. Mais en tout cas, au niveau des principes, c'est très clair. Si vous voulez. Alors, la tentation qui existe, nous en rencontrerons toujours. Ça, il faut bien se dire. Il y a un côté d'abord pénible, humiliant d'être tenté. Ça, c'est vrai. C'est une épreuve. Mais on le voit bien, personne n'y a échappé. Bon, vous connaissez l'épisode de Notre Seigneur au désert. Il a voulu lui aussi être tenté. Bon, la seule différence pour lui, c'est que la tentation était purement extérieure, évidemment, n'ayant pas de concupiscence, donc n'ayant pas l'ennemi déjà à l'intérieur. Donc pour notre Seigneur, c'était purement extérieur. Mais il a montré par là même que nous aussi, nous serions tentés. Donc les saints n'ont pas été exempts. Voilà ce que dit saint Jérôme. Le démon n'attaque pas les païens. Ils sont ses sujets, ses esclaves. Il ne se met guère en peine non plus des mauvais chrétiens qui se sont livrés à lui. Ceux qui l'attaquent de préférence, ce sont les âmes généreuses qui veulent servir Dieu de tout leur cœur. Donc vous, vous avez fait une retraite, 5 jours, vous êtes arrivé jusqu'au bout, eh bien, a priori, vous avez quand même été généreuse. Bon, c'est normal que le démon vous attaque. Ne soyez pas surprise. Comment ? Mais je pensais qu'après une retraite, on était au ciel, quoi. Maintenant, c'était fini, plus de tentation, plus rien, c'était... Non, vous allez franchir la porte demain, vous allez voir, choum, ça va revenir. C'est normal. Un jour, donc c'est un moine, Anana Koret, dans le désert, qui se plaint d'être tenté sans arrêt. C'est pas possible. Je suis venu dans le désert, donc il n'y a personne, je suis seul, et malgré tout, je suis tenté. Comment ça se fait? Donc si je suis tenté, je suis maudit de Dieu, je suis vraiment quelqu'un d'affreux, etc. J'y arrive pas, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Alors, le bon Dieu a eu pitié de ce brave Anna Koret et il lui envoie son ange. son ange gardien. Son ange lui dit, bah, écoute, voilà, je me suis envoyé de la part de Dieu pour te montrer que la tentation n'est pas un péché et que c'est normal que tu sois tenté, parce que tu cherches Dieu. Alors l'ange le prend et l'emmène dans un monastère. Donc dans un monastère, il y a plein de moines dans leur cellule. Et là, quelle est la surprise de ce brave anachorète ? Il voit mais des milliers de démons. Des milliers de démons autour de tous les moines, essayant de mettre des peaux de banane, enfin essayant de les faire tomber dans le péché, s'acharnant autour d'eux, des tentations, mettant des tentations pour essayer de les faire tomber dans le péché. Aïe, oula, donc je ne suis pas le seul, a priori, pour être tenté. Bon, alors il est un peu estomaqué, il dit, bon, au moins je ne suis pas le seul. Et puis le bon ange le transporte ensuite dans la grande ville, située pas très loin, et il le met donc au sommet de la ville. Et là, il ne voit rien, il cherche. Il voit les gens qui se baladent dans la ville, et puis il regarde, il scrute. Tiens, si là, à la rentrée, assis à la porte de la ville, ah si, tiens, il y en a un. Il voit un démon. Mais il est allongé dans un transat, un Coca-Cola dans la main, en train de siroter une boisson bien fraîche. Il dit, mais comment ça se fait ? Eh bien, il dit tout simplement, comme les gens sont à moi dans cette ville, moi, je n'ai plus rien à faire. Ils pêchent allègrement, je n'ai même pas besoin de travailler. Voilà la leçon de ce bon anachorète. Il dit, ben oui, effectivement, ceux qui cherchent le bon Dieu, eh bien, c'est normal qu'ils soient tentés, parce que le démon va tout faire pour les attirer à eux. Par contre, ceux qui sont déjà au démon, malheureusement, qui sont déjà dans le péché, ben, le démon ne s'en inquiète pas. Voilà la petite morale de l'histoire. Mais ce qui veut dire pour nous, ben, il faut toujours être prêt à s'attendre à être tenté et prêt à combattre avec la ferme résolution de vaincre. Vous avez aussi, peut-être pour vous un exemple, vous connaissez certainement aussi, qui est souvent cité, c'est se dire à ce sujet, oui, que le secours de Dieu nous est promis. C'est-à-dire que vous avez l'exemple de saint Paul, « Ma grâce te suffit ». Saint Paul, dans son... Dans quelle épître, il raconte... Première ou deuxième au Corinthien, je ne sais plus. Enfin bref, il raconte sa vision qu'il a eue au ciel, qu'il est monté donc au troisième ciel à l'époque. Troisième ciel, ça veut dire le ciel, ce que nous on appelle le ciel, où il a eu cette vision qui n'est pas possible à l'homme de raconter, etc. Et puis ensuite, il dit, ben justement, pour éviter de devenir orgueilleux, de se vanter, eh bien, le Dieu a permis d'être souffleté, comme dit-il, par l'ange, par Satan. Donc, il dit clairement qu'il a une épine dans la chair, donc que le démon le tente. Et que plusieurs fois, il a prié Dieu pour être délivré de cette tentation. Et il dit, bien, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et ça, c'est important pour nous. Toujours nous dire, nous ne serons jamais tentés au-dessus de nos forces. Saint Paul est clair aussi là-dessus. Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il nous donne toujours la grâce nécessaire pour résister aux tentations. Toujours. Ça, il faut en être persuadé. Quand vous êtes dans la tentation, même la plus forte, rappelez-vous, mon Dieu, j'ai besoin de votre grâce, ne me laissez pas tomber. Ma grâce te suffit. Et vous avez donc l'exemple de Sainte Catherine de Sienne. Donc cette grande sainte, moniale. Eh bien, un jour... elle a été tentée dans le domaine de la pureté. On peut se dire quand même, elle, une religieuse, une sainte, dans un couvent, au fond d'un couvent. Eh bien si, elle raconte, elle a été tentée dans ce domaine-là, de manière affreuse, etc. Et elle priait, mais mon Dieu, mais débarrassez-moi de ces pensées et tout ça. Mon Dieu, où vous êtes, au secours, j'ai l'impression d'être complètement submergé par ce torrent affreux, etc. Mon Dieu, mais où vous êtes, au secours. Et puis au bout d'un certain temps, donc elle est délivrée de ses tentations et notre Seigneur lui apparaît. Et elle dit à notre Seigneur, mais Seigneur, mais où étiez-vous quand j'étais absolument submergée par toutes ces tentations les plus affreuses possibles? Mais où étiez-vous? Notre Seigneur lui dit, mais est-ce que ce combat t'a déplu? Ah oui, Seigneur, mais j'aurais jamais voulu pécher un seul instant. Bon, eh bien, tu sais, c'est moi qui t'ai donné cette grâce de combattre. J'étais au plus profond de ton cœur. J'étais au milieu de ton cœur et c'est moi qui te donnais la force pour repousser les tentations. Eh oui. Mais pour nous, ça doit nous rassurer également. À se dire, non, le bon Dieu ne nous abandonne pas, ne nous abandonnera pas dans la tentation. Mais comment combattre? Alors la grande arme que nous a donnée notre Seigneur, nous l'avons vu quand nous avons parlé de son agonie, veillez et priez. Veillez et priez. Donc veiller, c'est-à-dire, eh bien, se mettre en garde, connaître ses défauts, et donc combattre ses défauts, connaître nos points faibles, très important, parce que le démon va nous attaquer par le point faible, évidemment. C'est évident. Donc, il faut ensuite prendre les remèdes généraux, bon, qui sont évidemment attention à l'oisiveté, ça c'est certain. Attention à l'oisiveté, aux pertes de temps. Attention à l'ennui, à la mélancolie. Oh, je suis mélancolique. Ah, oh, petite musique de nuit de Mozart. Bon. Attention à ça, effectivement, la mélancolie. Non, ça, c'est parce que le démon va attaquer. Et souvent, un des signes qu'il rôde, c'est la tristesse qui envahit un peu notre âme. Quand on commence, on ne sait pas pourquoi devenir triste. Attention, il faut se dire, il est en train de rôder, l'autre. Il rôde. Bon, attention. En général, c'est le cas. Il y a peut-être toujours des exceptions, mais en général, c'est le cas. Parce que le démon est toujours triste. La joie, non, ça vient de Dieu. Le démon est triste. Donc, il faut veiller. Il faut faire attention. Donc, veiller sur ses sens, veiller sur ses affections, sur nos intentions, sur nos relations, sur les occasions. On se connaît. On dit, attention, ah, ici, non, c'est dangereux, etc. Donc, veiller. La première chose, pour lutter, pour ne pas entrer en tentation, il faut veiller. Deuxième, prier. Alors, évidemment, ça me paraît un peu normal. Donc la prière nous fait remporter la victoire. Il faut avoir confiance dans la puissance de la grâce de Dieu. Si vous priez, vous l'obtiendrez. Donc il faut toujours prier, avoir ce réflexe. Dans toute tentation, il faudrait garder un petit peu à la bouche une invocation. Ô Marie conçue sans péché, ou Jésus, je vous aime, mon Dieu, je vous aime. Une petite invocation que vous prenez l'habitude de dire. Et quand vraiment la tentation arrive, tac, vous faites cette petite invocation. Et vous verrez, bien évidemment, le démon partira, la tentation s'en ira. Donc avoir ce réflexe-là. Et puis ensuite, troisième arme, c'est résister, c'est la contre-attaque. Alors, résister. Disons, la règle que donnent les maîtres de spiritualité, c'est évident, c'est dès le début. Dès le début. Ne pas laisser la tentation, c'est-à-dire ne pas discuter avec le démon. Ne pas commencer à jouer avec le feu. Surtout pas, parce que là, on est sûr de se faire brûler. Si on commence à discuter avec tentation, à jouer un petit peu avec le feu, tiens, oui, ça, c'est un camion, ça serait pas mal si j'allais voir ça, ou aïe, aïe. Vous connaissez le problème d'Ève, elle a discuté avec le démon, elle s'est fait avoir. C'est clair, elle s'est fait avoir, parce que le démon est quand même légèrement plus intelligent que nous. Donc à ce jeu-là, on perd. Donc, on est fort avec Dieu, avec la grâce de Dieu, ça c'est sûr, il peut rien pour nous, contre nous, ça il faut se dire. La grâce de Dieu, avec la grâce de Dieu, le démon ne peut rien contre moi. Mais si on commence à se laisser aller par nos propres forces, alors là, on est sûr de perdre. Ça, c'est sûr. Donc, résister dès le début. Alors, pour vous faire comprendre, imaginez là, oh, qu'est-ce que je vois? Oh, attention, il y a une petite vipère là, qui commence à monter sur votre jambe. Ah Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous chassez, vous partez, vous criez, vous ne restez pas là, vous ne laissez pas la vipère en train de vous monter dessus. Eh bien, la tentation, c'est ça. C'est exactement la même chose. Une tentation, on la chasse. Les mouches qui arrivent, on chasse, quoi. On ne va pas se laisser prendre par les mouches, les guêpes, les frelons, tout ce que vous voulez. On chasse. Ah. Je l'ai eu. Ben oui. Ben dans l'ordre spirituel, il faut faire la même chose. C'est pareil. Il faut chasser les mouches, les moustiques. Bon. Ensuite, de manière peut-être... Bon, ça, c'est, il faut le faire. Saint Augustin lui prend l'exemple du chien. C'est mieux. Aussi Saint Augustin. Il dit, le chien, quand il est attaché, il aboie, mais vous pouvez... il est attaché, il peut faire du bruit, ça fait du bruit, bon, tu me casses les oreilles, tais-toi, bon, il continuera à aboyer, mais il ne vous fera rien. Si vous commencez à dire, bon, il aboie, le pauvre, il doit avoir... il doit peut-être souffrir, je sais pas, allez, je vais aller le consoler, il n'a pas son maître, bon, allez, je vais essayer d'aller de m'approcher de lui, etc. Ben, il dit, ben, si vous approchez et que vous faites mordre, c'est votre faute. Eh oui, vous ne connaissiez pas ce chien-là, il se met à aboyer, vous voulez le... ben oui, tant pis, si vous êtes mordu, c'est de votre faute. Voilà, le démon, c'est ça, donc ne pas discuter avec lui. Ensuite, il y a évidemment, bon, la prière, l'humilité. Et puis, sur quelques vertus précises, il y a des règles d'or. Quand vous êtes tenté contre la foi, l'espérance, la charité, il faut faire des actes opposés. C'est-à-dire, vous êtes tenté contre la foi, mon Dieu, je crois. Tentation, j'ai un doute, mon Dieu, je crois. Et quand la paix est revenue, alors, approfondissez votre foi, allez poser des questions à un prêtre, étudiez la question. Pas dans le moment de la tentation, surtout pas. Dans ce cas-là, vous dites, mon Dieu, je crois. Vous aviez à ce sujet aussi une petite histoire, Saint Vincent de Paul, qui avait comme ça un péché de délivrer cette personne des tentations contre la foi, et de lui, de les prendre. C'est que lui prenait les tentations de cette personne. Effectivement, il a été assailli de tentations contre la foi. Alors, il ne s'est pas démonté. Il a écrit sur un papier, je crois en Dieu, donc le credo. Il l'a mis là sur sa poitrine. Et à chaque fois qu'il avait une tentation contre la foi, il mettait la main sur la poitrine. Je crois. Je crois. Ça ne vous arrive pas du tout. J'ai envie de critiquer une personne. Pourquoi vous riez? Bon, eh bien, réflexe opposé. Tiens, j'ai dit une petite invocation pour cette personne. Au mari conçu sans péché, priez pour elle. Paf. Ah, le démon, il en est mari, quoi. Zut, je l'attends pour qu'elle commence à critiquer cette personne, et voilà qu'elle fait une prière. Ah, zut, elle gagne un mérite, et moi je perds. Ben, voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. L'espérance, pareil, découragement, je n'arrive pas à tenir mes résolutions, qu'est-ce que je suis venu faire ici, etc. Bah, mon Dieu, j'espère, non, j'ai confiance dans votre grâce. Voilà pour ce domaine-là. En revanche, bon, je précise, il y a un domaine où il faut faire exactement l'inverse. Vous connaissez, c'est classique, c'est les tentations contre la vertu de pureté. Alors c'est exactement le contraire qu'il faut faire, c'est la fuite. Ne commencez pas à lutter en disant, bon, on m'attaque dans ce domaine-là, je vais faire un acte de pureté. Enfin, je vais essayer, mon Dieu, je vous aime. Enfin, oui, je vous aime. Au contraire, je veux surtout pas tâcher mon âme, etc. Non, surtout pas. Là, il faut faire la fuite. C'est-à-dire, mon Dieu, je vous aime. Et hop, on s'occupe à autre chose. On fait autre chose. Ça, c'est la règle d'or dans ce domaine-là. C'est la fuite. On ne discute pas avec le démon. Dame. Voilà, très rapidement, donc quelques réflexions sur les tentations. Mais comme je le disais à l'instant, donc la tentation, j'allais dire, est normale. Donc c'est normal d'être tenté. Si vous n'êtes plus tenté du tout, alors par contre, posez-vous quelques questions. Voilà, ça, c'est pas normal. Hein. Mais en soi, c'est normal d'être tenté. Le bon Dieu nous donne les armes, nous donne la grâce. Et aussi pour vous encourager dans ce combat, c'est ce que je viens de dire, c'est quand on repousse une tentation, on fait effectivement un acte de charité. Et ça, c'est important, ça doit nous consoler. On dira, oh, j'arrive pas, je suis sans arrêt tenté. Eh bien oui, mais bon, avec la grâce de Dieu, je ne suis pas tombé. Eh bien, à chaque fois, on a fait des actes de charité, donc on a augmenté dans la grâce de Dieu, dans l'union à Dieu, à chaque fois. On monte ainsi dans l'union à Dieu, et plus on résiste aux tentations, plus on se fortifie spirituellement. Ça, c'est une grande règle. Et c'est vrai. Donc, de temps en temps, il faut y penser. Ça peut nous aider, nous consoler dans la lutte. Voilà, donc je pense vous avoir donné quelques armes contre notre ennemi. Donc, vous voilà en garde. Donc, c'est ne la baissez pas. Ne baissez pas la garde. Bien sûr, maintenant, quels doivent être vos sentiments? Je pense que M. Abbé Troidec vous en parlera plus demain matin dans son petit sermon. C'est l'action de grâce, évidemment. Donc, autre sentiment maintenant, action de grâce, remercier Dieu de toutes les grâces qu'il vous a données, comme nous l'avons entendu pour les apparitions de l'île Bouchard, le Magnificat, c'est vraiment la plus belle prière pour rendre grâce. Et avec le bon Dieu, plus on donne, non pardon, plus on le remercie, plus il nous donne. Ça c'est, Dieu n'est pas ingrat. Alors nous-mêmes ne soyons pas des ingrats. Rappelez-vous l'épisode des 10 lépreux guéris par notre Seigneur, un seul revient. Et notre Seigneur en est blessé. On le voit parce qu'il dit comment, mais les autres n'ont-ils pas été guéris non plus? Donc on voit que notre Seigneur est blessé par l'ingratitude de celui qui ne vient pas remercier. Donc plus on remercie, plus Dieu nous donne. Enfin, rapidement, eh bien, demander la grâce de la fidélité. Alors, peut-être certaines d'entre vous ont un peu peur. Mais est-ce que je peux être fidèle? Oui. Le démon peut nous troubler. Il peut nous dire, c'est pas possible que tu sois fidèle. Parce que d'abord, quand tu regardes ta vie passée, tu as déjà beaucoup péché. Donc forcément, tu vas continuer à pécher. Donc ça, c'est une technique. Et donc c'est le découragement. Tu peux, de toute façon, t'es fichu. Qu'est-ce que tu peux essayer ce que tu veux? T'es fichu. Bah, t'es fichu. Regarde. Alors ça, il va essayer de ce côté-là. Ou alors, il va nous mettre la fidélité comme une énorme montagne. Ah, je suis en bas, il faut que je monte là-haut. Waouh! Il y a, je ne sais pas, 3-4 000 mètres de dénivelé. Waouh! Oui, en Suisse, on en voit des montagnes. Donc, ça va être dur. Mais je ne vais jamais y arriver. Ah, je ne vais jamais y arriver. Ce n'est pas possible. Autant ne pas commencer, quoi. Donc, ne voyons pas la chose comme ça. La fidélité, on a la grâce, c'est quelque chose qui se fait chaque jour. Chaque jour, j'allais dire heure après heure, minute après minute. C'est-à-dire, on prie, on a la grâce, on fait son devoir d'État, avec les armes que je vous ai données, on essaie de résister aux tentations, et ainsi, ben, petit à petit, avec les sacrements, eh bien, on a cette grâce de la fidélité. Donc, ne l'imaginez pas comme quelque chose d'impossible, non, c'est chaque jour, jour après jour, heure après heure. C'est comme ça qu'on est fidèle. Et encore une fois, souvenez-vous, le bon Dieu vous donnera la grâce à chaque instant. Et enfin, dernière façon d'être fidèle, évidemment, c'est le recours à la Très Sainte Vierge Marie. Donc, vous avez passé certainement cette retraite avec elle. Nous avons entendu ces apparitions de Notre-Dame. Ça peut toujours nous aider, nous réconforter. Ça nous montre au moins que la Sainte Vierge est bien notre mère, qu'elle s'occupe de nous, qu'elle a pitié de nous. Alors, eh bien, essayons de mettre tout simplement en pratique ces enseignements, tout ce qu'elle elle a pu nous dire à Fatima, à Lourdes, à Pontmain. Et ainsi, eh bien, avec sa grâce, par la grâce qu'elle nous obtiendra, nous pourrons être fidèles. Voilà, bien que je vous souhaite un bon courage, donc de partir avec pleine d'allégresse, pleine de courage. Je vous remercie aussi d'avoir été patiente, de nous avoir écoutés. Je sais que, bien sûr, toutes vous pensez à nous remercier, c'est évident. Je crois que la meilleure façon, c'est de penser à prier aussi pour nous, donc pour nous aussi, d'être fidèles, nous aussi, à notre grâce, à la grâce que nous avons reçue. Je ne pourrais évidemment pas vous saluer les unes après les autres, puisque je serai avec vous.